Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Difficile de parler de paternité dans nos sociétés occidentales, c'est le constat posé par le pape. Lors de l'audience générale ce mercredi, Benoît XVI a poursuivi sa catéchèse sur le credo, invitant les fidèles à reconnaître la paternité de Dieu à la lumière de la révélation biblique. Vous l'entendrez dès le début de ce magazine. Au terme de l'audience, les actes du symposium sur les abus sexuels au sein de l'Église ont été remis au pape. Ils seront présentés le 5 février prochain à Rome lors d'une rencontre à l'université pontificale grégorienne. Dans cette édition, nous nous attarderons également sur la raison d'être de la Fédération internationale des universités catholiques avant de nous rendre au Mali où l'armée française poursuit la reconquête du nord du pays. Vous entendrez le père Edmond Dembélé, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Mali. Bienvenue dans ce magazine. Benoît XVI a poursuivi ce mercredi lors de l'audience générale salle Paul VI sa catéchèse sur le credo à l'occasion de l'année de la foi. Le pape s'est attardé sur les difficultés autour de la figure du père, en particulier dans nos sociétés occidentales, et il a appelé à reconnaître la paternité de Dieu à la lumière de la révélation biblique. Les familles séparées, les préoccupations quotidiennes, les activités prenantes, la difficulté à boucler les fins de mois, l'invasion des masses médias dans la vie de tous les jours sont souvent des facteurs, a souligné Benoît XVI, qui peuvent empêcher un rapport serein entre le père et les enfants, la communication devenant difficile et la confiance diminuant. Et ceux qui ont fait l'expérience d'un père autoritaire, inflexible ou même absent, peuvent avoir, ajoutait le pape, des difficultés dans leur rapport avec Dieu pour s'abandonner à lui avec confiance. Mais indique Benoît XVI, la révélation biblique nous aide à dépasser cette difficulté dans la mesure où elle décrit un Dieu qui nous montre ce que signifie véritablement être père. Et c'est surtout l'Évangile qui nous présente de manière particulière le visage de Dieu comme un père qui aime jusqu'à donner son propre fils pour le salut de l'humanité. Je vous propose d'écouter le pape s'adressant aux pèlerins francophones.
C'est en connaissant Jésus que nous pouvons connaître aussi le Père. C'est en le voyant que nous pouvons voir le Père, car Jésus est dans le Père et le Père est en lui. La foi en Dieu, le Père requiert de croire, sous l'action de l'Esprit, en son Fils Jésus. Le visage définitif du Père se révèle avec clarté dans le mystère pascal. Sur la croix glorieuse, Dieu se manifeste pleinement comme un Père tout-puissant. Sa toute-puissance s'exprime dans l'amour-passion, la miséricorde, le pardon, la compassion et dans l'appel contenu à la conversion du cœur. Voici la véritable et parfaite puissance de Dieu, répondre au mal par le bien, aux insultes par le pardon, à la haine meurtrière par l'amour. Quand nous disons « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant », nous exprimons notre foi en la puissance de l'amour de Dieu, qui dans son Fils mort et ressuscité vainque la haine, le mal, le péché, et nous ouvre à la vie éternelle, celle des enfants qui désirent être pour toujours dans la maison du Père.
Mercredi matin, Benoît XVI a envoyé un nouveau tweet. « Tout être humain est aimé de Dieu le Père. Que personne ne se sente oublié, car le nom de chacun est écrit dans le bon cœur du Seigneur. » À l'issue de l'audience générale, le pape a également salué les pèlerins italiens et notamment le mouvement des Focolari, fondé par Chiara Lubich, présent dans 182 pays avec plus de 140 000 membres et 2 millions de sympathisants. Benoît XVI a souligné l'importance d'une solide instruction religieuse, appelant les évêques proches des Focolari à poursuivre leurs efforts en faveur de cette formation. Parmi les acteurs qui ont compris l'importance de contribuer à la lumière de la foi chrétienne et grâce au ferment de l'Évangile, au progrès du savoir et à l'édification d'un monde plus juste et plus humain, la FIUC, la Fédération internationale des universités catholiques, elle représente les universités catholiques auprès des institutions et organisations internationales et veille à une répartition appropriée des institutions académiques catholiques dans les diverses parties du monde. La qualité de son enseignement n'est plus à démontrer, elle attire des centaines de milliers d'étudiants qui ne sont pas toujours de confession chrétienne. Quels sont aujourd'hui les défis auxquels elle doit faire face? Pour nous en parler, le père Guiréal Thivierge, son secrétaire général.
Le monde universitaire est en pleine transformation, précisément parce que nos sociétés sont aussi en pleine transformation. Société de la communication, société de la connaissance, avec évidemment tous les nouveaux moyens de communication, il est très clair que ceci implique de la part des universités un profond bouleversement dans nos manières de faire. Ajoutons à tout cela, évidemment, ce nouveau monde dans lequel nous vivons, un nouveau monde où les valeurs sont souvent moins identifiées qu'elles ne l'étaient, moins incarnées aussi par certaines institutions. Par conséquent, nous avons à nous redécouvrir, je dirais, dans l'enseignement qui est le nôtre, dans l'enseignement universitaire catholique, nous avons à peut-être redécouvrir de nouveaux modes de transmission de nos valeurs, de transmission d'une vision du monde, d'une vision de la personne, d'une vision de la dignité humaine, d'une vision de la justice, une proposition pour un monde où il y aura une paix renouvelée, par exemple. Tout cela, évidemment, touche l'université catholique et le touche parce que l'université catholique ne peut pas et ne doit pas être une institution où la première préoccupation est la délivrance des diplômes.
Comment se manifeste cette disparité mondiale de l'enseignement catholique? Voilà, il y a une pluralité des réalités auxquelles vous devez faire face.
Je pense que partout où nous avons des institutions, elles sont des institutions d'enseignement supérieur catholique, des universités catholiques. Mais il est important de bien prendre conscience que l'on n'est pas université catholique de la même manière en Indonésie, au Brésil, ici même en Italie ou en Belgique. Chaque pays, chaque culture incarne ce que j'appellerais l'idée même, les valeurs à sa manière, d'accord avec évidemment son histoire, sa culture, sa politique, ses conditions sociales, de sorte que l'université catholique, elle est à la fois partout la même et elle est profondément diverse et diversifiée. Et je pense que c'est ce qui fait la richesse, évidemment, d'ailleurs, de cette catholicité universitaire. C'est-à-dire, l'université, elle est universelle, mais en même temps, elle est profondément singulière dans ses manières d'être. Il y a, par exemple, en Indonésie, il y a 13 universités catholiques en Indonésie, alors que nous savons très bien que l'Indonésie est la masse musulmane la plus importante au monde, plus de 200 millions de musulmans. Et pourtant, il est intéressant de constater que dans nos universités là-bas, il y a souvent plus de 50% des étudiants qui viennent chez nous qui sont musulmans, alors qu'ils sont intéressés au type de formation qu'ils peuvent rencontrer chez nous, qui sont intéressés certainement aux valeurs que nous proposons, qui sont également intéressés au projet éducatif qui est offert aux étudiants. Alors, il y a là une énorme diversité. C'est la même chose en Thaïlande. Vous savez, deux immenses universités catholiques. Et puis, dans une de ces universités qui a plus de 20 000 étudiants, 2% des étudiants sont chrétiens. Et pour autant, il est impossible de dire que le projet d'université catholique n'a pas sa pleine valeur, même dans des milieux comme ceux-là.
Des propos recueillis par Olivier Tosseri. Encourager personnellement les nouvelles initiatives de lutte contre les abus sexuels sur mineurs au sein du clergé et la prévention de la pédophilie. Un symposium international sur ce thème avait été organisé l'année dernière par l'Université pontificale grégorienne. Les actes de ce symposium ont été remis ce mercredi au pape à la fin de l'audience générale. Ils seront présentés la semaine prochaine à Rome. Bernard de Cotigny.
Vers la guérison et le renouveau, c'était le thème d'un symposium sur les abus sexuels au sein de l'Église qui avait rassemblé en février 2012 à Rome une centaine de représentants des conférences épiscopales nationales, une trentaine de cadres d'ordre religieux et des experts venus du monde entier. L'objectif était de donner une réponse globale au problème des abus sexuels et de la protection des plus vulnérables. Un an après ce rendez-vous sans précédent, l'Université pontificale grégorienne de Rome accueillera donc le 5 février prochain une nouvelle rencontre qui présentera les résultats des premières activités du Centre de protection des mineurs ainsi que les actes de ce symposium. Ils ont été remis en fait au pape ce mercredi à la fin de l'audience générale par le père Hans Zollner, président du comité de direction du Centre de protection des mineurs, en présence du père Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège. À l'occasion de l'année sacerdotale en décembre 2010, lors de la présentation des vœux de Noël à la curie romaine, Benoît XVI avait abordé de front et sans concession le drame des abus. Après cette prise de position sans équivoque sur la volonté du pape d'affronter ce problème, la Congrégation pour la doctrine de la foi avait publié une circulaire pour aider les conférences épiscopales à établir des directives pour le traitement des cas d'abus sexuels commis par des clercs à l'égard de mineurs. Les participants au symposium avaient travaillé à partir des thèmes figurant dans cette lettre circulaire: soutien aux victimes, formation des futurs prêtres ou encore coopération avec les autorités civiles.
Le Saint-Siège ont eu mardi à Jérusalem une rencontre sérieuse et constructive dans le cadre de leurs négociations juridico-financières relatives aux biens de l'Église catholique en Terre Sainte. La commission de travail permanente bilatérale entre Israël et le Saint-Siège a pris acte du fait que des progrès importants ont été accomplis et espère une conclusion rapide de ces négociations qui durent depuis 14 ans. C'est ce que l'on peut lire dans un communiqué conjoint. La délégation vaticane était présidée par le sous-secrétaire pour les relations avec les États, Monseigneur Ettore Balestrero, qui a remercié le vice-ministre des Affaires étrangères chargé du dossier côté israélien pour sa contribution aux discussions. Selon Dani Ayalon, Israël et le Saint-Siège seraient sur le point de signer un accord. Au cours des 4 dernières années, nous avons couvert beaucoup de terrain et après de longues, intensives et sérieuses négociations, nous avons surmonté presque tous, sinon tous les obstacles qui ont empêché la signature de cet accord pendant si longtemps, a déclaré le vice-ministre israélien des Affaires étrangères au quotidien anglophone Jérusalem Post. Direction à présent le Mali. Après Gao et Tombouctou, l'armée française poursuit la reconquête du nord du pays. Elle s'est déployée mercredi à Kidal, dernière grande ville du nord Mali, sous contrôle de groupes armés. La ville historique de Tombouctou avait été libérée lundi par les forces maliennes et françaises, mettant fin à 9 mois de présence islamiste. Malgré la présence de ces forces armées, des actes de pillage ont été rapportés par certains journalistes présents sur place. Les témoignages se sont aussi multipliés sur la destruction de précieux manuscrits datant de plusieurs siècles. Dans cette cité, qui fut la capitale intellectuelle et spirituelle de l'islam en Afrique subsaharienne au 15e et 16e siècle. Nous en parlons avec le père Edmond Dembélé, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Mali. Il revient tout d'abord sur la joie de la population malienne à l'annonce de la reconquête de Tombouctou par les soldats français et maliens.
Comme vous pouvez l'imaginer, cette nouvelle a provoqué une réaction de joie au niveau de l'ensemble, ou en tout cas de la grande majorité de la population malienne, parce que Tombouctou est une ville très connue et à l'extérieur du Mali. C'est une ville qui fait la fierté du Mali. Et Tombouctou regorge de monuments historiques sur l'islam. Et Tombouctou aussi, c'est une région qui compte beaucoup de mausolées historiques, de sites historiques. Et donc, vous imaginez que cette région, cette ville, était entre les mains des djihadistes depuis plusieurs mois. Et donc, sa libération par les forces franco-maliennes a provoqué une immense joie, non seulement au niveau des ressortissants de cette région, mais aussi pour l'ensemble des Maliens.
Alors, il a maintenant été confirmé que des manuscrits qui font la fierté, qui font la richesse et la renommée de Tombouctou ont été détruits. Qu'est-ce que cela représente pour l'ensemble des Maliens, cette perte?
Justement, c'est avec beaucoup de douleur que les Maliens l'ont appris, parce que, comme je l'ai dit tantôt, effectivement, Tombouctou, c'est une ville historique. Et les manuels ou les manuscrits qui sont là-bas représentaient pour beaucoup de Maliens une grande richesse culturelle. Alors la destruction d'une partie de ces manuscrits, nous l'avons appris avec beaucoup de peine et c'est regrettable. Maintenant, j'espère que les autres documents qui n'ont pas été détruits, qu'on trouvera le moyen de les protéger, de les sauvegarder pour que ces documents puissent être utilisable sur le long terme.
Des premières informations font état de pillages de magasins ou de biens tenus par, entre guillemets, des Arabes de Tombouctou. Est-ce que vous craignez des règlements de compte et des scènes de ce genre à l'avenir dans les zones libérées du Nord Mali?
Beaucoup de sensibilisations sont en train d'être faites depuis le début des opérations de reconquête du Nord, justement pour éviter des scènes de pillage, pour éviter des règlements de comptes. Parce que vous savez que cette guerre au Nord a été une situation difficile pour beaucoup de populations. Des gens qui vivaient ensemble et se sont retrouvés finalement opposés. Des voisins qui vivaient côte à côte se sont retrouvés dans des camps différents. Alors beaucoup de gens ont craint qu'avec la libération donc de ces régions du Nord, que des règlements de comptes surviennent. S'il y a des gens qui se sont retrouvés complices des djihadistes, et qui méritent d'être jugés. Bon, ils le seront dans les règles de la justice. Mais, en tout cas, on essaie de sensibiliser la population par tous les moyens pour éviter ces règlements de compte et pour que la paix et la sérénité puissent revenir rapidement. Sinon, c'est une menace qui est là et on espère que cette menace ne va pas justement devenir réalité.
Le père Edmond Dembélé, secrétaire général de la Conférence épiscopale du Mali, interrogé par Xavier Sartre. Respect et la protection des droits humains en Zambie se détériorent de manière préoccupante. Dans leur dernière lettre pastorale, les évêques zambiens évoquent un usage arbitraire du pouvoir de la part de fonctionnaires gouvernementaux, des intimidations et des menaces d'arrestation à l'encontre de responsables et de personnes qui critiquent le gouvernement, y compris de prêtres catholiques. Tout en reconnaissant le tournant démocratique qui a débuté en 1991 avec l'adoption du multipartisme, les évêques mettent en évidence différents signaux de régression autoritaire et d'intolérance politique, tant entre les partis qu'en leur sein même. L'Église des Philippines dénonce les dynasties politiques. À l'issue d'une assemblée plénière de 3 jours, mardi 29 janvier, les évêques de l'Église catholique des Philippines ont publié une déclaration pastorale au sujet de certains problèmes sociaux actuels. Dans ce texte de 5 pages, ils interpellent le président Aquino et l'ensemble des responsables politiques du pays. S'appuyant sur l'Évangile et la doctrine sociale de l'Église, ils appellent à la mise en place de véritables réformes afin de lutter contre des maux connus de longue date, mais auxquels les différentes administrations qui se sont succédées à la tête du pays n'apportent pas de réponse satisfaisante. Nous prenons la parole à la place de ceux qui souffrent, expliquent les évêques. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site www.radiovaticana.va. c'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi. Je vous invite à nous retrouver sur notre page internet et sur Facebook.